Alors c'est parti. Voilà. C'est parti. Erev Tov, les Koulam. Pas encore Erev Erev, mais bon, quand même. Parashat Be'alotecha.
Yo.
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 This good?
Yo.
Yo. Alors on va y aller. Préparez vos doigts, parce qu'on va compter.
On va...
Oh non, ça va, pas tant que ça. Mais on va compter le nombre de sujets traités dans la paracha. Parce que c'est peut-être la paracha avec le plus grand nombre de sujets dans une seule partie. Alors, on nous parle d'abord de la menorah. Ensuite, on nous parle des Lévim. Ensuite, on nous parle de Pessah Sheni. Ensuite, on nous parle des nuées qui avancent ou qui n'avancent pas. Ensuite, on nous parle de sonner des trompettes. Ensuite, on nous dit que Yitro, il s'en va. Ensuite, on nous parle des mitonénim, c'est-à-dire de ceux qui veulent... Alors, d'abord mitonénim, gens qui se plaignent, stam. Ensuite, on demande de la viande. Et ensuite, on demande. Enfin, après, il y a la fameuse partie où Myriam va parler la Shonara sur Moshe. Neuf parties, neuf sujets à traiter dans une paracha. Et des sujets qui, a priori, ben voilà, n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres. Et notre boulot va être d'essayer de rattacher tout ça. La vérité, c'est que j'aurais pu vous amener un texte en hébreu parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le boulot à ma place. Il s'appelle le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook. Le Rav Cook, il a écrit tout un texte dans le livre Shmoné Kvatzim, le livre des huit parties, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, dans la partie 8 au paragraphe 157, eh bien tout le paragraphe, tu as vraiment l'impression, j'étais pas là, mais il a dû écrire ça pendant la paracha de Baalotecha, pendant la semaine de Baalotecha, parce que tu vois que tout le texte, c'est verset après verset une explication. Mais il dit pas, voilà, ce verset-là, machin. C'est un long texte, mais quand tu lis le texte et que tu as, toi, la paracha derrière que tu connais, tu vois que c'est de cela qu'il parle. Alors, venez, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Quel est le fil conducteur de tous les thèmes abordés dans la paracha? Alors, on se lance avec l'histoire de la menorah. Quel rapport? Alors, on ouvre la menorah, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la paracha de Baalotecha, c'est la paracha de la Torah. Et donc, toute la paracha nous explique qu'est-ce que c'est la Torah, quelle est la valeur de la Torah et au service de quoi elle est la Torah. Et donc, la première question à se poser, c'est: est-ce que la Torah est au service du peuple juif ou est-ce que c'est le peuple juif qui est au service de la Torah? Et la réponse est évidente. C'est la Torah qui est au service du peuple juif. Pourquoi je dis cela? Ben, pour une raison très simple. Qu'est-ce qu'il y a eu en premier? La Torah ou le peuple juif?
La Torah.
Tu dis la Torah?
C'était avant la création, il y avait déjà la Torah, il y avait plein de trucs avant la création.
C'est le vrai.
Bon, alors. Il n'y avait pas
forcément. Mais elle était abstraite.
Elle était pour qui alors?
En vue de nous.
Elle est devenue très mystique depuis le corona.
Bon, écoute, j'ai des cours par dessus là.
Mais c'est ça. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, mais. Mais, ah ouais. Mais attends deux secondes.
Pas complètement.
Mais en même temps d'avoir raison. Tu donnes le bâton pour te faire battre.
Oui.
Parce que la source que tu amènes, qui est vraie, qui vient du Talmud dans le traité de Yoma, c'est la même source que je vais utiliser pour dire que tu as tort. Puisque tu m'as dit, attends, excuse-moi, mais il y a marqué dans le Talmud qu'il y a sept choses qui ont été créées avant même la création du monde, parmi elles, Torah, Kadma Laolam. Oui, seulement, ben, quand on lit la fin de la phrase, c'est Uma Kadma Lakol. C'est-à-dire que, d'accord, tu as des choses qui ont été avant la création du monde. Mais qu'est-ce qui a été la première de la première de la première? On te dit, c'est Ruach Nishmat Israël Kadma Lakol. C'est-à-dire que l'âme d'Israël, puisque la Torah, elle est abstraite à cette époque-là, bien sûr, mais l'âme d'Israël également, eh bien, l'âme d'Israël précède la Torah. En d'autres termes, oui, Israël précède la Torah. D'ailleurs, dans les faits concrets, on a été un peuple juif avant de recevoir la Torah.
C'est sûr.
Donc, qui est premier ? Eh bien, Israël. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si un jour venait à éclater une marloquette, une controverse entre Torah et Israël, et qu'il faudrait briser un des deux.
Pourquoi tu dis Israël ?
Le peuple juif. Tu veux que je dise quoi ? Ça te dérange que je dise Israël ? Tu veux que je dise quoi ? Le peuple juif ?
Eh ben, alors, c'est que toi.
Voilà, c'est tout pour toi, c'est cadeau. Non, tu comprends que le peuple juif, c'est réducteur. Eh oui, parce que juif, ça fait référence à la tribu de... Oui, mais ça fait référence à la tribu de Judas, de Yehuda. Juif, ça vient de Judas. Et donc, on s'est appelé juif pendant l'exil, parce qu'on n'était que les descendants du royaume de Judée. Alors qu'Israël, c'est une dimension beaucoup plus grande. OK ? Donc... Israël, s'il y a éclaté une controverse entre Torah et Israël, qui il faudrait briser ? La Torah, c'est ce qui va être fait. Lorsque Moshe descend du Sinaï, il voit le veau d'or. Le veau d'or, c'est un veau d'Azara. C'est interdit. Celui qui fait de la veau d'Azara, Chayav Mita. Donc à ce moment-là, Moshe décide, au lieu de briser Israël, ben il brise là où c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire de la veau d'Azara. Et il casse les louchot. Et à ça, Dieu lui répondra, Yishar kochacha sheshibarta. C'est bien. Tu as compris que c'était d'abord Israël et ensuite la Torah. Alors, ce que je vous dis, c'est sympathique, mais quel rapport avec la menorah ? Eh bien, le rapport, il est très simple. Si on parle d'un ustensile du Beth Amikdash qui représente Israël plus que les autres, c'est la menorah.
Oui. Pourtant, il a brisé la Torah. Dieu dit, histoire que tu as. Pourtant, il a menacé plus d'une fois, et ce n'est pas des menaces rac, de dire je vais détruire le peuple et je refais un nouveau pour toi.
Il a fait. Ce n'est pas du tout des menaces rac, c'est des menaces test. Test pour Moshe. Pour voir est-ce que tu as compris qu'il fallait que tu les défendes. C'est Bekeilou. Dieu, il a fait une promesse à Abraham, Israël et Yaakov. Donc finalement, Moshe, il peut menacer autant qu'il veut. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Moshe, il répond, il dit une chaise à trois pieds ne tient pas, et tu veux qu'une chaise à un pied, elle tienne ? Les ministres, c'est les enfants d'Abraham, Tsrak et Yaakov. Tu dis que ça tient pas, mais une descendance de moi, ça tiendra ? Ah. Donc la menorah, en quoi elle représente plus que tous les autres ustensiles le peuple juif ? Eh bien, simplement parce que dans la menorah, il y avait un miracle. Depuis Moshe jusqu'à Shimon HaTzadik dans le deuxième temple, que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Restez tous allumés. Et c'était Edout le Chol Bae Olam, chez Ashrina, Shora, Be Israël. C'est la preuve que la présence divine réside au sein du peuple juif. En d'autres termes, la menorah, elle représente la Kedusha du peuple juif. Alors que le Aaron Abrit représente la Kedusha de la Torah. Mais ici, dans la paracha qui nous parle justement de la Torah, eh bien on parle de la menorah et pas du Aaron pour savoir que la Torah est au service du peuple juif. C'est important de s'en rappeler. Hein. Par exemple, vous prenez 9 rabbins. Mais attention, hein, du rabbin de Ligue des Champions. Hein. Tu mets dans le même sac, tu mets le Rambam, Rashi, enfin tout plein, 9. Mais il n'y a pas Minyan. Tu ne peux pas faire la Kedusha. Alors que d'un côté, tu prends 10 juifs qui ne savent pas lire l'hébreu et qui ne connaissent rien du tout. Mais qui se sont réunis, Yesh Minyan, Yesh Kedusha. Donc, le peuple juif, il a une dimension qui dépasse celle de la Torah.
Pourquoi il faut 10?
Alors, je peux te donner une raison technique et une raison métaphysique. La raison technique, c'est que 10, c'est ce qui est appelé dans la Torah comme étant une assemblée. C'est ce qu'on verra dans la semaine prochaine, d'après, on tire ça de la semaine prochaine, qu'il y a 10 explorateurs et on appelle ça Admataya Edda. Donc, Eda, c'est 10. Maintenant, au niveau plus métaphysique, le 10, c'est le chiffre ultime. C'est le chiffre qui le plus grand. Il n'y a pas de chiffre plus grand que 10.
C'est pour ça qu'à la fin de la discussion entre Abraham et Akadosh,
il s'arrête à 10. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de plus grand chiffre que 10 parce qu'en hébreu, évidemment, comment on dit 11 ? C'est 10 et 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un concept qui s'appelle 11. D'accord ? Le 10, c'est le top. Donc, 10, c'est mignon. Il y a 10, il y a Kdoucha. Il n'y a pas 10, il n'y a pas Kdoucha. Même si dans les 10, il y en a ensemble pas un qui sait lire un verset. Et dans les 9, ils connaissent tous toute la Torah par cœur. Ça ? Donc, il fallait commencer par la menorah pour montrer que la Torah vient au service du peuple juif. Maintenant qu'on a mis ça en place, alors on peut dire, ok, mais alors qui est responsable de transmettre cette Torah au peuple juif ? Eh bien, ceux qui sont responsables, c'est les Lévim. Les Lévim ont un boulot, certes, au Beth Amikdash, mais ils ont un boulot bien plus important, qui est d'être le responsable, le garant que le peuple juif connaisse la Torah. Tous les Lévim. C'est-à-dire, le Rambam, lorsqu'il nous fait sa présentation de l'histoire dans les lois sur la Avodah Zarah, chapitre 1, il nous dit qu'Abraham, quand il a commencé à enseigner ce qu'il savait, il a programmé Shiur à 18h30 chez les Burstein, celui qui veut, il vient. Bon, comme Abraham, il était un petit peu plus fort que moi, donc lui, il avait 100 personnes. Je ne sais pas où les Burstein, ils mettaient tout le monde, mais c'était à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il y avait 100 personnes qui venaient, voilà, Kavod. Ceux qui venaient, ils entendaient le cours d'Abraham. Ceux qui ne venaient pas, ils n'entendaient pas le cours d'Abraham. Et Yitzhak, il a repris l'affaire familiale. Pareil, il a fait des cours comme ça, ceux qui veulent, ils viennent. Yaakov, quand il a vu que chez ses enfants, il n'y avait pas de gens qui étaient exclus, il n'y avait pas de Ishmaël, il n'y avait pas de Esav, que tous ses enfants faisaient partie du groupe, eh bien, il a compris que chacun devait être au shiur. Il nous dit le Rambam, où yichad et Lévi, l'elamed banav kulam. Il a mis la responsabilité sur Lévi qu'il doit accompagner tout le monde et leur enseigner à tous. C'est d'ailleurs la valeur du mot Lévi. Lévi s'appelle comme ça parce que Apam, il l'avait Ishi Elai. Il doit être un accompagnateur. Et je rappelle que le nom de Lévi, par opposition à tous les autres noms des enfants de Yaakov qui ont été donnés par les mamans, Lévi, le nom a été donné pas par Yaakov, par Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne le nom de Lévi. Donc Lévi, son rôle, comme dirait Rabbi Yaakov, ou Rabbi Jacob en français, comme vous voulez, il dit « Cher Lévi !» Et ça marche. Tout le monde est en liesse à ce moment-là. Et il avait fait un bide avec « Cher Kacher », mais « Cher Lévi », ça a bien marché. C'est ça ? Donc le Lévi, c'est son rôle d'être là pour enseigner à tout le monde. Quel est le problème ? Le problème, c'est que tout le monde ne veut pas étudier pareil. Si je proposais au cours des seniors qu'on change de format et que notre cours, c'est un cours de Gemara, en Iyun, sans traduction, je ne suis pas certain que ça marcherait. Ben non, parce que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas votre truc.
Même avec traduction.
Et même avec traduction, ce n'est pas ton truc non plus. Tu as raison. Donc, il y a des gens qui ont envie d'entendre la Gemara. Donc, il faut quelqu'un qui leur enseigne la Gemara. Il y a des gens qui veulent entendre de l'histoire juive. Il faut que quelqu'un leur enseigne l'histoire juive. Et c'est rare de trouver des rabbins qui sont capables d'enseigner tout. Tous les rabbins, ils ont des domaines de prédilection. Parce que c'est là où ils ressentent le plus. Bon, le Rav Kook, il savait tout. C'est-à-dire, mais on n'est pas tous le Rav Kook. Donc, on va avoir besoin de plein de styles de Lévim. Pas que les Lévis qui ont le titre officiel de Lévi. Nous dit le Rambam, tout celui qui veut prendre sur lui cette responsabilité d'enseigner, ou Lévi. Pas Lévi, il va bosser au Beth Amikdash, mais il a cette dimension où il est responsable lui aussi d'enseigner. Et donc, tu vas avoir des gens qui sont très, très bons contacts avec les jeunes et qui vont leur enseigner. D'autres qui sont de très bons contacts avec les personnes plus âgées, qui vont leur enseigner. D'autres qui n'arrivent pas vraiment à s'asseoir avec des textes. Mais ils arrivent à faire des petits mots comme ça d'esprit entre deux matchs de foot. Ben, c'est bien, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'on a besoin que Lévi soit présent chez tout le monde en fonction de ce que les gens ils ont besoin d'entendre et peuvent entendre. Ok ? Donc, la deuxième partie de la paracha, après qu'on ait dit la Torah, elle est pour le peuple juif, ben, les Lévim, ils sont pour accompagner cette Torah au peuple juif. Maintenant qu'on a mis ça en place, tout va bien, on peut y aller. Pessah Sheni. Ben oui, parce que maintenant, tout le peuple juif est conscient qu'il doit recevoir la Torah. Et donc, il dit hop, 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 deux secondes. La Torah nous dit qu'on a passé la deuxième, enfin, on a fait un an depuis la sortie d'Égypte. Puis, on arrive à Pessah. Donc, Moshe, il rappelle les règles de Pessah. Et tout d'un coup, il y a des gens qui disent « Ah, on ne peut pas faire Pessah, nous !» On peut pas faire Pessah, on est Tmeim, le Nefesh Adam. Alors, est-ce que l'homme chané, pourquoi ils sont Tmeim? Il y a plusieurs avis. Tmeim, impur. Donc, on ne peut pas faire Pessah. Qu'est-ce qu'il devrait dire Moshe à ce moment-là? Mais c'est pas grave, tu peux pas, tu peux pas. L'année prochaine, Bezrat Hashem. Moi, j'ai eu un appel il y a quelque temps, ce Kippour aussi, mais Kippour d'avant également. Quelqu'un de la communauté qui m'a dit, voilà, je prends un traitement très lourd, machin. Le docteur, il m'a dit qu'il faut que je mange. Qu'est-ce que je fais à Kippour? Ben, j'ai dit, tu manges. Il dit, est-ce que je dois faire les chiourim? Est-ce que je dois manger des petites parties? Il dit, non, du tout, tu manges. Alors, tu n'es pas obligé non plus de te faire péter le coca, le champagne et autres trucs. Non, ce n'est pas obligé, ça. Tu manges ce que tu as besoin de manger. Tu bois autant que tu as besoin de boire. Mais kef, je lui ai dit, par contre, tu n'oublieras pas « Ya'alev Yavo » de Yom Kippour dans le Birkat Amazon. Ah bah oui. Si tu manges du pain et que tu fais Birkat Amazon, il y a « Ya'alev Yavo ». Alors, il n'est pas marqué dans le Sidour. Parce qu'en général, tu ne fais pas le Birkat Amazon à Kippour. Mais il faut savoir que… Donc, Bekitsour, ça, tu peux pas, Bezrat Hashem l'année prochaine, tu feras Kippour. Donc là, les mecs, ils viennent dire à Moshe, on ne peut pas faire Pessah. C'est pas qu'ils veulent pas, ils peuvent pas. Donc Moshe, il aurait dû leur dire, pas de problème, les gars. J'ai lu qu'il y a marqué dans la Gemara, dans ma Maseret Baba Batra, que Anus Rachamana Patre, celui qui ne peut pas, il ne peut pas, c'est pas grave. Eh ben non, Moshe, il n'a pas dit ça. Moshe, il a dit, oh, vous pouvez pas faire Pessah, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, attendez, bougez pas, je demande au patron. Il dit, effectivement, donne-leur une deuxième chance. Moed Bet. Pessah Sheni. Ça n'existe pas dans les autres fêtes, ça. On ne fait pas un Sukkot Sheni si ma Souka, elle s'est effondrée. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Pessah Sheni? Eh bien, tout simplement parce que pour les gens qui sortent d'Égypte, Pessah, ils savent très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est Pessah pour eux? Pour eux, c'est l'indépendance d'Israël. C'est la sortie d'Égypte. C'est, voilà, on s'attache à l'indépendance du peuple juif. C'est ça, faire Pessah. C'est prendre part à l'indépendance du peuple juif. Pour eux, c'est quoi la fête qui vient après Pessah? Shavuot. Alors, je ne pense pas qu'ils l'appelaient Shavuot, mais pour eux, c'est le don de la Torah, le moment où Dieu leur a parlé. C'est derrière moi. Donc, les Bnei Israël, ils ont dit, il est hors de question de passer par la case recevoir la Torah sans être passé par la case appartenir au peuple juif, puisqu'on vient de dire que la Torah, elle est pour le peuple juif. Donc, ils ont dit, si on ne passe pas par la case Pessah, on ne peut pas arriver à la case Shavuot. Et c'est vrai que pour Pessah. C'est pour ça que donc, Pessah chez lui. Bon, juste la Torah, elle dit quelque chose d'intéressant, purement théorique, hein, évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuite, involontaire, évidemment. Mais la Torah nous dit quelque chose de bizarre. Elle dit... bon, si déjà je te fais les lois de Pessah Sheni, elle nous dit, mais dans quel cas tu pourrais ne pas pouvoir faire Pessah? Il y a deux cas. Ou tu es tamé, ou tu es bederer rechoka. Nous dit Rabbi Avraham Azoulay, bah oui, par exemple, t'es à New York, tu peux pas venir à Jérusalem. Il n'y a plus d'avion. T'es bederer rechoka, malasot. Nous dit Rabbi Avraham Azoulay, bah la chesed la Avraham, il dit, bon, facile, derer rechoka, c'est bagalout. C'est quand tu es en exil, loin d'Israël, bah, tu ne peux pas. Vemazet tamé, ça veut dire que tu es malé à Vérot. Bon, ok. Maintenant, la Torah, elle dit, veim taor hu. Taor hu, ça veut dire donc, qui ne fait pas d'Averot. Ou bederer loaya, il n'était pas non plus loin, il était en Israël. Vechadal mila asot a pesach. Mais il refuse de prendre part aux festivités de l'indépendance d'Israël. Donc, je récapitule. Quelqu'un qui habiterait en Israël et qui ferait très attention à faire toutes les lois du Shulchan Aruch, mais qui refuserait de prendre part aux festivités symbolisant l'indépendance du peuple juif, eh bien, il serait retranché du peuple juif. Évidemment que, heureusement, que c'est un cas purement théorique, bien sûr. Ça ne peut pas arriver avec quelque chose comme ça. Donc, on est bien heureux que ça ne soit que théorique, évidemment. Je ne te raconte pas. J'ai fait un cours, peut-être vous l'avez vu, j'ai fait un cours. Ah non, vous ne l'avez pas vu celui-là, mais enfin, j'ai fait des cours pour l'Ag BaOmer. Maintenant, le jour de l'Ag BaOmer, vraiment, ce jour, j'ai fait un. Enfin, le soir qui a suivi l'Ag BaOmer, j'ai fait un chiour par Zoom à la communauté israélite de Metz.
Ah,
pas mal. Eh oui, c'est monsieur le grand rabbin qui m'a invité à parler. Hein, t'as vu ou pas? Maintenant,
on va le chercher.
Maintenant, attends, j'étais surpris.
C'est Zoom ou
YouTube? Non, Zoom. Non, on ne peut pas le trouver celui-là. C'était Zoom, uniquement Zoom. Et il y avait 80 personnes. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de juifs à Metz. Bon, mais j'ai vu qu'après, il n'y avait pas que des gens de Metz. Et bon, j'ai fait le cours. Bon, vous connaissez plus ou moins ce que j'ai pu dire là-bas. Les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts d'un rhume, ils sont morts de la guerre de Bar Korva. J'ai dû expliquer les Mekorot. Deux jours plus tard, je reçois un mail de mon oncle qui me dit « Je ne sais pas si tu as fait attention. » Oui, le rabbin, le grand rabbin.
Le tonton.
Le tonton. Il me dit « Je ne sais pas si tu as fait attention dans la liste des participants, mais il y en avait un qui a écouté depuis l'Angleterre et qui est le fils du Rouf, un des fils Bamberger. On ne va pas dire lequel. Il était là. Je dis, ah non, je n'ai pas fait attention. Il m'a envoyé un mail. Je te le transfère.
Aïe, aïe, aïe.
Et donc, dans le mail, il me dit, il dit au rabbin qu'il est très, il est très admiratif du travail qu'il fait dans la communauté, machin. Non, non. Mais pour en revenir à ce qui est important, alors, oui, certes, Ethan sait bien transmettre ses chiorim avec beaucoup d'humour et beaucoup de passion, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il dit est absurde et complètement dénué de tout sens de la Torah. Et il fait une liste de ce que j'ai dit et de pourquoi il n'est pas d'accord. C'est ça ? C'est bien, au moins il fait… voilà, non seulement il a écouté, et puis en plus, c'est pas qu'il a dit « Oh, les sionistes, machin !» Il amène des sources, il amène des sources, c'est très bien. Et je suis très content. Donc, je lui ai dit, j'ai renvoyé… j'ai dit, bon, je vais lui répondre. Et donc, je lui ai répondu à toutes les sources, machin. Et j'ai répondu, machin. Maintenant, bon, il y avait un moment donné, il a dit, non, parce qu'il a l'air de porter en piédestal Bar Korva. Il faudrait juste rappeler que Bar Korva a tué Rabbi Elazar Amodaï, qui était son propre oncle. Donc, il dit, moi, je serais vous si j'avais un neveu qui met en… en avant, quelqu'un qui a tué son oncle, je ne sais pas, je ferai attention. Alors j'ai dit à mon oncle, t'inquiète pas, j'ai pas prévu de tuer dans les prochains temps. Donc j'ai répondu, et finalement, j'ai dit, mais tu comprends, parce qu'il y a un moment donné, son dernier argument, c'est le seul argument qui n'avait pas de source. Il a dit, parce que finalement, l'idée de d'avoir des héros qui sont des giborim et tout ça, et de vouloir montrer qu'on est fort physiquement, ce n'est pas du tout juif. Nous, notre force, elle est dans la Torah. Alors je lui ai dit, eh ben, il serait peut-être temps que tu regardes dans la Torah, ce qui est marqué. Parce que là-bas, les héros de la Torah, ce sont des gens qui ont tous des biceps gros comme ça, et qui sont les giborim de la Milchama, tout en étant les giborim de la Torah. Je veux dire, quand tu te représentes David Ameller, c'est celui qui a tué Goliath. Quand tu te représentes Gidon, c'est celui qui est fort. Quand tu te représentes Shimshon, c'est Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite. Hein, Abraham, Yoshua, tous. Abraham fait la guerre, et tout ça. J'ai pas fait une liste exhaustive. J'ai une liste non exhaustive. Je lui ai dit, donc non. Donc oui, en exil, on n'avait pas le choix. Et donc, on s'est rattaché à nos dirigeants qui étaient des rabbins. Qui dit rabbin, dit monsieur d'un certain âge, et donc monsieur qui physiquement, ce n'est plus vraiment dans la jeunesse propre. Mais c'est l'exil qui a voulu ça. Quand tu regardes Dafka dans les sources du Tanakh, eh bien ce n'est absolument pas le cas. Bon, j'attends encore la réponse, mais ça d'air. Donc, en malasot, c'est un cas purement théorique des gens qui seraient ici et qui ne voudraient pas prendre part aux festivités nationales, bien sûr. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a la menorah, on a les Lévim, on a Pessah Sheni. Donc, on est bon. Maintenant, on peut y aller. Nachon. Et donc, la Torah nous dit, maintenant que tu as les bases, yala, la nuée avance. Ça veut dire quoi, la nuée avance? La Torah, et derrière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la Torah était statique, théorique. Maintenant, la Torah avance. C'est-à-dire que notre relation à Dieu, ça devient du concret. Au pied du mont Sinaï, pendant un an, on n'a pas bougé. On est dans un monde purement théorique. Là, il est temps de bouger. Et quand on bouge, eh ben, on va voir si ça tient. Eh oui. Et à ce moment-là, eh bien, la Torah nous dit qu'il va falloir sonner des trompettes. Des trompettes ? Moi, j'ai l'habitude de choses qu'on sonne dans la Torah. Mais d'habitude, on sonne quoi ? Chauffard ? Des cloches. Alors, pas dans la Torah. Ça, c'est effectivement, les cloches, c'était à Notre-Dame. À Notre-Dame. Oui, ah, tu parlais des clochettes du Kohen Gadol, bien sûr. Mais homme de peu de foi que je suis, bien évidemment, les clochettes du Kohen Gadol. Tu as raison. Mais c'est mon éloignement du Beth Amikdash qui m'a fait penser aux cloches de Quasimodo et de Notre-Dame. C'est vraiment, tu vois à quel point l'exil a une influence sur moi, c'est terrible. Effectivement, il faut faire tchouva là-dessus. Mais tu sais que c'est grave, hein, parce que on a tous eu un énorme élan de motzi shemra sur toi, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'on a tous pensé que tu pensais aux cloches de l'église alors que tu pensais aux cloches du Kohen Gadol. C'est grave, hein, c'est grave. C'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Perachia a rejeté Jésus. Non, mais maître, c'est pour ça. Pourquoi c'est pour ça ?
On lui a sonné les cloches.
Alors, on lui a sonné les cloches, justement, parce que lui, il avait pensé des choses mauvaises sur son rabbin. De quoi je parle ? Alors, on me raconte toute l'histoire, hein, dans le traité de Sanhedrin, en Perek Relek, dans la Gemara, que donc, ils étaient en Tioul tous les deux, ils revenaient d'Égypte. Et parce que Rabbi Yoshua ben Perachia, c'est donc le maître de Yeshua à Notzri, et ils s'arrêtent, ils font halte dans une auberge. Et à ce moment-là, dit Rabbi Yoshua à son élève, elle est belle cette auberge. Elle est bien, c'est bien ici. Maintenant, à l'époque, pour dire le mot auberge, c'était le même mot qui était utilisé pour l'aubergiste. Apundekait. Et donc, eh bien, quand il dit « Elle est belle, cette auberge », eh bien, Jésus répond « Oui, mais enfin bon, elle a quand même des yeux très, très moches. Des yeux très, très moches. Elle n'a pas de beaux yeux, si tu vois ce que je veux dire. » Et là, à ce moment-là, il s'est retourné vers lui, il a dit « Racha !» Alors quoi ? Racha parce qu'il regarde la Apundekait ? Peut-être qu'elle était célibataire, lui aussi était célibataire. Non, c'est pas ça. Pas Racha que lui, il l'ait regardé. Racha, que tu penses que c'est ce à quoi pense ton rabbin. Parce que si tu penses que ton rav change de rabbin. Non, mais maître, change de rabbin. Si la première chose qui vient à l'esprit du rav quand il arrive dans un endroit, c'est de regarder les femmes de l'endroit, change de rabbin. C'est-à-dire, si Jésus lui avait demandé, écoute, je suis célibataire. Que penses-tu de la Pundekait qui est là ? J'imagine qu'il lui aurait dit oui ou non, ou il dit, j'ai pas regardé, machin, ça passe. Mais que lui, il pense que c'est à cela que pense son rabbin, c'est que son rapport avec la Torah a un vrai problème. Et donc, il l'a rejeté. Il l'a rejeté, l'autre s'est pas démonté, il est revenu lui demander pardon. Il a compris son erreur, il demande pardon. Mais Rabbi Yoshua ben Perachia, il a dit non. Une fois. Deux fois, il est revenu lui demander pardon. Il a dit non. Troisième fois, c'est la halakha. Il attendait la troisième fois. Il a dit, s'il vient cette fois, je le reprends. Et il est revenu. Mais il est revenu juste au moment, nous dit la Gemara, où il était en train de faire le schéma. Donc, il était en train de faire le schéma et il vient à ce moment-là. Donc, il lui fait, alors, attends. Mais lui, il a pris ça pour un troisième rejet et donc, il est parti. Bon, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais ça veut dire que qu'est-ce qui a fait sortir finalement ? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? La Gemara nous dit qu'est-ce qui a fait sortir finalement Jésus et qu'il a fait ouvrir une nouvelle équipe ? C'est Echad. Shema Israël, Hashem Elenu, Hashem Echad. Et tu comprends qu'après, bah, le christianisme est passé dans sa trinité. Donc, mais tout a commencé parce qu'il a pensé à mal sur un autre juif qui plus est, son rabbin. Donc, autant pour nous, évidemment, que les cloches, c'est pas ça qu'on sonne. Dans le judaïsme, on sonne du chauffard. Ici, on nous dit qu'on sonne des trompettes. Quelle est la différence entre le chauffard et les trompettes ?
Les trompettes qui sont diffusées.
Je parle d'une trompette simple, hein, juste ouais, un truc et tout.
C'est pas... déjà guerrier, c'est le cérémonial, alors que le chauffard, c'est l'appel au repentir, c'est l'appel à...
Quand on part en guerre, on sonne du chauffard.
Bien sûr.
Non, mais le chauffard, c'est l'animal.
Ça vient d'un animal.
Alors que trompette, non, trompette est fabriquée.
Il y a fait. C'est que le chauffard, c'est naturellement chauffard. C'est-à-dire qu'on n'a rien, on a pas touché le chauffard. On a juste enlevé l'os qui était à l'intérieur. Mais la corne, elle reste la même corne, on n'a pas travaillé. Alors que la trompette, c'est melachuti. Ça a été fait par l'homme.
C'est aussi ce que les légumes, ils sonnent
dans le... Ils sonnent les deux. On sonne et du chauffard et des trompettes. Les kohanim également. Mais pourquoi on dit qu'on a besoin également de trompettes? Parce que c'est kol melachuti. Parce qu'il faut que tu saches qu'il y a une dimension qui nous rattache à la Torah qui est naturelle, c'est un chauffard. Mais, et ça, on le sait, on n'a pas besoin de le répéter. Mais il y a également une dimension qui est le propre du travail de l'homme, qui doit des fois aller au-delà de sa nature pour se rattacher à la Torah. Par exemple, je suis de nature flemmarde. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Ben, je dois me battre contre ça pour arriver à étudier. Je suis de nature à être une pipelette. Cas purement théorique, chez certaines personnes, on va dire, avec plus de cheveux que moi. Je suis une pipelette. Je suis une pipelette, c'est ce que je dis. Moi, j'ai grandi à la maison avec quelqu'un qui aimait beaucoup parler. Baruch Hashem. Et c'est faux ou c'est vrai ce que je dis? Parce que tu n'étais pas comme ça. Hein, on a connu beaucoup de nos mamans, Baruch Hashem. C'est elles qui nous ont appris à parler beaucoup plus que nos parents, que nos papas. C'est-à-dire, bon, ma mère, elle parle, c'est ce que je dis. Ma mère, elle parle, c'est comme ça. Je ne comprends pas, personne ne comprend. Tous les jours, elle est au téléphone avec sa sœur pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir à se raconter du jour au lendemain? C'est-à-dire, il ne peut pas se passer tellement de choses en une journée.
C'est une répétition.
C'est fantastique. C'est fantastique. À l'éveil qu'on ait tous les mêmes relations entre frères et sœurs. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui sont des pipelettes. Bah, il faut se battre contre ça pour ne pas faire du lashon hara. Donc, on a des choses qu'on doit combattre notre nature pour se rattacher à la Torah. Et c'est ça que vient nous apprendre la chatzotzra, la trompette, qui est une voix, mais pas naturelle. Donc, une fois qu'on a dit cela, ben c'est parfait. On peut, cette fois, réellement rentrer dans le message de la Torah. Eh ben non, Yitro s'en va. Pourquoi on avait besoin de Yitro? On avait besoin de Yitro parce que le message de la Torah... Zainaim Shelan ou Nachon, mais il est surtout pas juif.
C'est lui qui a donné tous les conseils
à Moshe. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'un rapport avec l'extérieur. C'est-à-dire que la Torah, évidemment, s'adresse au peuple juif, mais doit avoir au final un message pour toute l'humanité. Yitro s'en va. Donc, comment on va pouvoir faire en sorte que ce message va, oui, avoir une portée universelle? À ce moment-là, Moshe est obligé de prendre le rôle de Yitro. Et à ce moment-là, Moshe dit à Yitro, bon, tu ne veux pas le faire? Alors, je le fais moi à ta place. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. Et après on rajoute kimitzion tetzé Torah dans les synagogues. C'est-à-dire Moshe prend sur lui de faire le rôle de Yitro et bevoazman à un moment donné reviendra Yitro. C'est-à-dire qu'à un moment donné les goyim reviendront pour avoir leur part dans la Torah, on le voit actuellement aujourd'hui. De plus en plus de non-juifs s'intéressent à ce que la Torah a à leur dire. Donc maintenant qu'on a compris que la Torah était pour le peuple juif, que les Lévites ils sont là pour faire en sorte que tout le monde soit relié, qu'on ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas rattaché au peuple juif, que cette Torah, elle doit être une Torah qui avance, pas statique, pas théorique, mais qui est inscrite dans la vie, que cette Torah, elle a une dimension naturelle et une dimension que je dois, moi, développer, et que cette Torah doit avoir un message universel, eh bien, c'est parti! On se plaint.
Oui, les Iraniens, j'ai entendu au ministère des Affaires étrangères, ils veulent venir habiter en Israël.
Ah bon?
Plein de demandes.
Quoi, des Iraniens juifs ou pas juifs?
Goy. Oui.
Je ne pense pas qu'ils vont être...
Non, ils vont pas
venir. Hein, je ne suis pas sûr.
Ils ont plein de demandes au ministère des Affaires étrangères.
Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
D'où se fait le tumain?
Hein?
C'est impressionnant. D'où se fait le
tumain? Écoute, peut-être que c'est ça qui va être le début de la chute.
Ils ont regard perçant.
Ben, c'est ça. Il l'a travaillé depuis tellement longtemps.
Il a bien dormi cette nuit.
C'est d'accord. Agave, d'où vient le mot? La Perse. Alors, ce que je vais vous dire n'est pas prouvé. Mais ça sonne juste. C'est quoi le truc des Perses, leur business international.
C'est pas les tapis ?
C'était les tapis, ouais, à l'époque. Aujourd'hui, il faut plein d'autres choses, mais c'était les tapis. Un tapis, on en fait quoi en hébreu ? On est porès auto. Ouais. Porès, c'est on le déroule. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé l'endroit d'où viennent les endroits où on est porès, parès.
Ah, c'est pas mal, ça.
C'est pas prouvé, mais ça sonne pas mal. C'est-à-dire, nous, chez Yé. Contrairement à l'Iran, qui est directement lié à leur attachement au nazisme. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Tu nous feras une conférence là-dessus la prochaine fois, si tu veux bien. Quoi qu'il en soit, les problèmes commencent. Ben oui. Tu laisses un juif en roue libre, qu'est-ce qu'il fait ? Il se plaint. Ben, c'est pas vrai ? Bien sûr que c'est vrai. Il y a un film, j'en ai déjà parlé, le Hebrew Hammer, le marteau juif. C'est un film complètement déjanté, absurde, fou, et que les Américains juifs pour faire un truc comme ça. C'est donc des juifs qui ont fait un film avec des juifs pour les juifs. L'histoire est très simple, c'est le Père Noël. Alors l'ancien Père Noël était pour les amitiés judéo-chrétiennes, il était très content, très gentil, mais son fils vient de l'assassiner, il prend l'affaire familiale, il est complètement antisémite et son seul but dans la vie, c'est de détruire Hanouka. C'est un vrai film, hein, avec des vrais acteurs. Il y en a même des acteurs connus. Aux États-Unis, quoi. Bekitsour, et donc le Pentagone juif, qui est en forme de Magen David, évidemment, fait appel au Hebrew Hammer, le marteau juif, le Zorro des temps modernes juif. Okay, quand tu le vois, il y a une scène où tu le vois arriver donc dans ce Pentagone juif, dans ce Magen David, et il doit passer une série de tests pour prouver sa judaïté. Donc, premier test, je m'en rappelle plus, il dit « C'est quoi les noms des patriarches ?» Il dit « Abraham, Yitzhak, Ethan. » Il passe sa première porte. Et ensuite, il dit « C'est six les éléments qu'il y a sur le plateau du Seder. » Il passe à deuxième truc. Et puis, troisième, quatrième test, il dit « Circumcision test. » Donc, il y a un embout. Il doit se déshabiller, mettre son petit truc dans l'embout pour vérifier qu'il est bien circoncis. Donc, il y a marqué « Circoncision confirmée. » Et donc là, il y a une porte qui s'ouvre et tu penses que c'était le dernier test. Lui aussi, il le pense. Et il rentre dans une salle. Hein ? Non, ils rentrent dans une salle où il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il ne se passe rien. Personne n'est là. Il n'y a rien dans la salle. Il n'y a rien. Et il y a une glace sans teint. Et de l'autre côté, il y a Moshe Dayan, genre un mec avec un bandeau sur l'œil, qui est là. En fait, de l'autre côté, il vérifie. Il y a une flèche, il y a un curseur où il y a marqué, c'est le curseur de plainte. Et donc, il y a, quand la flèche est à zéro, c'est moine bouddhiste qui ne se plaint jamais. Et puis après, et donc tu arrives à la fin, c'est juif. Et donc, tu vois le mec qui, au début, pendant 10 secondes, il regarde, il ne voit pas. Et puis après, à un moment donné, ça commence à venir. Je ne comprends pas ce que je fais là. Il n'y a rien. Et ma mère dans tout ça. Et quand il arrive, je dis, c'est bon, c'est un juif, il s'est plaint comme il faut. C'est un juif. Non, les juifs, ils se plaignent, qu'est-ce que je te dis ? Eh ben voilà.
Ah bon,
2003, tu vois. Non, c'est pas un grand classique d'Hollywood, hein, bien sûr. C'est rigolo, c'est complètement n'importe quoi. Hein. C'est le grand n'importe quoi, c'est pas du tout sérieux. Mais par exemple, il y a une roue, parce qu'ils viennent finalement à Jérusalem, parce que c'est là qu'il y a l'horloge atomique des Juifs. Et ils veulent arrêter, évidemment, le Père Noël. Et donc, tu vois, l'horloge, c'est la roue de la fortune des fêtes. Bon, c'est aussi un humour très américain. C'était pas. Oui, non seulement de l'anglais, mais en plus très américain. Donc, par exemple, dans la liste des fêtes, t'as Hanouka, t'as Rosh Hashanah, t'as les soldes chez Macy's. Ça fait partie des fêtes juives, très important. C'est. Je sais pas. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les juifs se plaignent. Et donc, dans la paracha, les juifs se plaignent. Au début, ils se plaignent de quoi ? Ben non, de rien. Juste, ils se plaignent. Les mitonénimes, ils se mitonénimes pour rien. Stam mitonénim. Donc ça, directement, Kadosh Baruch Hu, il les éclate. Parce que je veux bien que tu te plaignes, mais pour quelque chose. C'est-à-dire, tu peux te plaindre, c'est bien de dire que tu veux autre chose. Mais faut que ça, c'est une base. Et donc, ils ont compris. Et donc, juste après, arrivent ceux qui se plaignent pour quelque chose. Et c'est quoi le quelque chose ? Ben, ils veulent la viande. Alors, je pourrais vous dire ce que j'en pense, ou je pourrais vous renvoyer au cours de hier soir, vegan contre carnivore, où j'ai parlé que de ça pendant 50 minutes. Donc, bon, je pourrais résumer ça tout simplement en disant qu'ils veulent de la viande, bien que sachant que c'est de la chutzpah de demander de la viande alors qu'ils ont de la manne, eh bien, ils voulaient justement montrer qu'il y avait une kedusha dans la chutzpah. Seulement ça, c'est la dimension du Mashiach. Dévoiler, être capable de dévoiler la kedusha qu'il y a dans la chutzpah, c'est la dimension messianique. En gros, il voulait d'ores et déjà arriver à l'époque messianique. Moshe, il a dit, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Maintenant, si vous voulez plus de précision, je vous renvoie au cours de hier soir, où j'ai parlé de ça pendant 50 minutes. Et finalement, alors parce qu'avec ça vient le moment où Moshe, il dit, bon, j'en peux plus, Dieu, tue-moi. Parce que moi, je ne gère pas la chutzpah. Dieu, il dit, calme-toi, prépare 70... aides de camp, et en gros Moshe va donner un peu de névoie à ces gens-là qui vont devenir ses lieutenants, et il y a deux mecs, Eldad ou Medad, chez Mitnabim Bamachane, piratement parlant, c'est pas prévu. Donc tout ça j'explique là-bas, tout ça c'est un ensemble. Mais une fois qu'on a montré donc quel était l'idéal messianique, eh bien arrive Myriam, Vatedaber Myriam et Ben Moshe à la Isha Akushit à Shalakar. Keisha Kushit, Lakar. Quel est le problème? C'est quoi son problème à Myriam? Alors, les racistes diront que c'est parce qu'il avait pris une femme noire. Bon, mais c'est pas du tout ça qui lui pose problème. Qu'est-ce qui lui pose problème? D'ailleurs, entre parenthèses, Manitou avait rencontré le président du Congo.
Oui.
Ouais, vous vous rappelez?
La Côte d'Ivoire.
Je suis pas sûr. T'as peut-être raison. Et il lui avait dit, le président lui avait demandé quel est le rapport des Juifs aux Noirs.
J'ai dit Congo.
Donc, il dit quel est votre rapport aux Noirs? Je dis, ben, nous, très bon, très très bon rapport aux Noirs. D'ailleurs, la preuve, oui, le plus grand des prophètes s'est marié avec une personne noire. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas du tout ça qui dérange Myriam. Qu'est-ce qui la dérange? Ben, c'est l'inverse. C'est qu'il soit marié avec elle, mais qu'il l'ait répudiée. Et ça la dérange beaucoup, parce que Myriam, elle est pour le mariage pour tous, mais pas version française, version il faut se marier. Et donc, elle a un problème avec les gens qui divorcent leur femme. Déjà avec papa, qui avait répudié Yocheved. Elle lui avait dit, t'es pire que Pharaon, toi. Pharaon, il voulait tuer les enfants garçons. À cause de toi, maintenant, il n'y aura même plus de filles. Donc Myriam, elle n'aime pas du tout que Moshe il se sépare de Tzipora. Mais pourquoi Moshe s'est séparé de Tzipora? Parce que Dieu lui a dit.
Oui.
Hein?
Il est très occupé.
D'accord, mais il peut quand même être avec sa femme,
ouais,
de temps en temps. Non, tout simplement parce que juste avant la préparation du Mont Sinaï, Dieu a dit à tout le monde qu'ils devaient se séparer de leur femme. Seulement après Mahamad Arsinaï, Dieu a dit à Moshe, va leur dire, vous pouvez rentrer dans vos tentes. Donc vous pouvez retourner vers vos femmes. Avalata, Amod, il m'a dit. Mais toi, tu restes avec moi. Donc c'est Dieu qui a dit à Moshe de ne pas retourner chez Tzipora. Et Myriam, elle le sait que Dieu lui a dit. Donc pourquoi elle lui en tient rigueur? C'est pas de sa faute, le pauvre. C'est Dieu qui lui a dit. Et Tosfot, ils disent qu'effectivement, Myriam le savait, mais qu'elle avait un problème. C'est qu'elle pense que si Dieu lui a dit ça, c'est que quelque part, c'est ce qu'il voulait. C'est ce que Moshe voulait. Parce qu'elle dit, « Bederer sha'adam rotze l'eler, sham molichimoto. » Dieu, il ne fait qu'emmener les gens dans l'endroit où ils veulent aller de toute façon. C'est pas sympa, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que pour toute la prophétie, chaque prophète reçoit une prophétie qui lui correspond. Par exemple, même Yona, bien sûr.
Et il voulait pas y aller.
Mais exactement. Yona, c'est quelqu'un qui est un fan inconditionnel du peuple juif, mais qui rejette l'idée de la teshuva. Yona, il dit que la teshuva, ça marche pas. Jusqu'à la fin du livre.
Du commentateur dit aussi qu'il savait déjà avant ce que ça va devenir les ennemis d'Israël.
Nahon, qui ne veut pas que donner du sroud à ces gens-là, mais il ne veut pas qu'il fasse Tshuva. Il a un problème avec ça. Donc il reçoit une névoie qui va dans ce sens-là. Jérémie, qui va faire les névoies du Khourban, Dieu lui a ordonné de ne pas se marier pour qu'il vive une vie de Khourban. Comme ça, il peut avoir une névoua de Khurban. Quand il y a un prophète qui va parler au Mota Olam, au Vadia, c'est un guerre. C'est quelqu'un qui vient de là-bas. Donc, il a une prophétie qui leur parle. Et ainsi de suite. Quand on envoie un prophète pour parler de la scission du royaume d'Israël en deux, et donc du moment où Jérusalem va tomber, elle ne sera plus la capitale, eh bien, on envoie un avis de Shiloh. Parce que la ville de Shiloh, les gens qui viennent de là-bas, ont toujours une dent contre Jérusalem qui leur a pris la capitale. Donc, on voit que c'est vrai. C'est vrai, mais pas chez Moshe. Dit Tosfot, là où elle a eu un problème, Myriam, c'est qu'elle n'a pas compris que Moshe, c'est l'okacha. Parce qu'il y a marqué « Vaish Moshe anav meod ». C'est-à-dire que chez tous les autres prophètes, il y a un peu d'eux dans leur prophétie, mais pas Moshe. Moshe, c'est un tube. C'est une paille. Il y a tout qui passe à travers. Donc, c'est vrai ce que tu dis pour les autres, mais pas pour Moshe.
Est-ce que je me trompe, mais Aaron n'a pas
suivi. D'accord, Aaron, il a suivi. Oui. Celle qui a lancé, c'était Myriam. C'est seulement elle qui a été punie, parce que semble-t-il que c'est elle qui a vraiment parlé, que Aaron était là, il a tué. Mais je me permets de dire tout de même que c'est vrai qu'il n'a pas eu la lèpre, mais je pense que pour Aaron, voir sa sœur dans cet état-là, ça ne devait être pas facile non plus. C'est aussi une punition, quelque part. Mais moi, j'ai juste un problème. Vous croyez vraiment que Myriam, elle ne savait pas ce qu'il y avait marqué dans Tosfot? Donc non, en fait, c'est autre chose. Et le Rafou qui dit qu'en fait, il y avait un autre problème pour Myriam. Elle dit, je sais très bien que Moshe, il n'est pas du tout... Enfin, il n'y a rien de lui dans la névoie, elle est peu bessédère. Je dis juste que ce n'est pas bessédère que Moshe, il était Moshe. Parce que pourquoi Dieu, il lui a dit, tu restes avec moi? Parce que si tu es avec ta femme, eh bien, les moments où tu es intimement avec ta femme, tu ne peux pas recevoir la névoie. Parce que tu penses à d'autres choses et tu ne peux pas recevoir la névoie. Dit Myriam.
Ça contredit ce que vous avez dit.
Que
c'est le moment.
Bien sûr, c'est pour ça que je n'ai pas fini. Dit Myriam, certes, toi, tu n'y arrives pas, moi non plus et personne, mais moi, Myriam, j'ai étudié le Harizal. Et je sais que le Harizal nous dit que la madriga de Adam Harishon avant la faute, c'était de recevoir la névoie quand il était avec sa femme. Parce que c'est justement l'unité par excellence. En d'autres termes, Moshe, pourquoi tu n'es pas au niveau de Adam Harishon avant la faute? En d'autres termes, pourquoi n'as-tu pas réussi à déjà terminer l'histoire et amener l'histoire à l'idéal? Moshe, il ne lui répond même pas. Et Dieu, il ne lui répond pas non plus. Il doit donner la tzara'at. La tzara'at, c'est quoi? C'est quand tu flirtes avec un niveau qui n'est pas le tien. C'est vrai ce qu'elle dit Myriam, mais ce n'est pas le moment. Mais ça sera le moment. Ça sera le moment, on arrivera un jour où effectivement, il n'y aura plus rien qui nous empêchera, lorsque Ba'olam Hazeh, on montre l'unité, et bien qu'on la dévoile également dans le monde d'en haut. On n'y est pas encore, mais Bezrat Hashem, on y arrivera. Et donc, ben, nous avons réussi à trouver le fil conducteur de toute la Torah dans cette paracha de Baalot Echa. Chazak ou Baruch.
Merci. Et Dieu t'aide d'aller dans le monde.